Hein, tu penses que c'est vrai? Chose certaine, ça fait réfléchir.
Des commentaires qui ne laissent personne indifférent. Resto Bistro Rumeur, 585 de la Gap, situé dans l'Hôtel V.
Carl Bélanger analyse l'actualité de l'Outaouais au 1047 Outaouais. Que l'Outaouais se lève! Voici Daniel Evans.
7h05 minutes avec nous. Il est en congé hier, donc aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses à nous dire, mais quand même, c'est limité à 3 sujets. Je pense que tu pourrais nous en parler pas mal plus. Analyste politique. Bonjour, Carl Bélanger.
Bonjour, Daniel.
Docteur Aruba, il a passé à quelques reprises son message parce qu'il voulait être reconduit. Hein? Ça a marché?
Écoute, ça a marché. Évidemment, il se disait toujours au service de la population, au service du gouvernement, que c'était pas sa décision, mais qu'il était prêt à continuer à servir. Et le gouvernement Legault, qui a décidé de maintenir sa confiance envers le docteur Aruda, qui va demeurer comme directeur de la santé publique au Québec pour un mandat de 3 ans, un mandat de 3 ans qui a été renouvelé là, tout juste avant le congé de la fête du Canada. Considérant les changements qui ont eu lieu il y a quelques semaines, remaniement ministériel, Daniel Mécan qui est obligé de quitter le poste de ministre de Santé pour s'en aller ailleurs, remplacé par Christian Dubé. On a aussi remplacé le sous-ministre Yvan Gendron. Il a été remplacé également, clairement du côté du gouvernement Legault, de François Legault. On pensait qu'on devait faire un changement suite à l'échec particulièrement dans les CHSLD, mais dans le milieu de la santé en général, le nombre de morts au Québec est plus élevé qu'ailleurs. Alors, c'est Daniel Mécan et Christian et Yvan Gendron qui ont écopé, mais pas le docteur Aruda. Ah. Et plusieurs se disaient pourquoi le docteur Aruda ne serait pas lui aussi envoyé ailleurs, limogé, pourquoi on ne le tiendrait pas responsable. Ben, force est de constater que du côté de François Legault, on considère que le docteur Aruda est plus un atout qu'une nuisance. C'est sûr que il est devenu une rockstar, Daniel.
Absolument. Ben, pas juste une rockstar. Il fait également du rap.
Il fait du rap, ouais, ça, il l'a regretté un peu, mais ouais, il a pris beaucoup, beaucoup de place au cours des derniers mois. Ouais. Clairement, du côté de François Legault, on pense que les difficultés qu'on aurait eues, les explications qu'on aurait dû donner si on limogeait Horacio Aruda, ça aurait été fondamentalement un constat d'échec sur toute la ligne, si on se débarrassait également d'Horacio Aruda. Alors, on n'avait pas vraiment beaucoup de choix. D'ailleurs, je crois que s'ils avaient eu à le faire, ils l'auraient fait en même temps que le remaniement. Et donc, à ce moment-ci, là, le Dr. Aruda qui peut respirer plus à l'aise.
Mais sauf que Dr. Aruda, doit constamment répondre aux mêmes questions, à savoir pourquoi avant vous n'étiez pas d'accord avec le masque et là vous l'êtes. Et la question revient constamment. Il me semble qu'à un moment donné, on passe à autre chose.
Ça va continuer de revenir parce que les mesures changent. Puis on va en parler dans quelques minutes. Les règles changent au fur et à mesure qu'on avance dans la pandémie. Mais la question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi qu'on n'imposait pas ces mesures plus rapidement. Elle va continuer de se poser. Regarde, le maire Watson, en fin de semaine, à Ottawa, disait qu'il était pas, serait pas surpris que la santé publique à Ottawa demande le masque obligatoire pour tous les lieux intérieurs. Est-ce qu'on se dirige vers là au Québec également? Je ne le sais pas, mais si c'est le cas, alors qu'on en parlait la semaine avant le congé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le Dr Aruda disait à tout le monde, le masque, c'est pas nécessaire.
Oui, mais lui, il disait ça parce que il disait c'était de mettre notre main près de la bouche, et alors ça pouvait devenir dangereux. Alors c'était un peu son cheval de bataille à ce moment-là.
Oui, il disait également que ça donnait un faux sentiment de sécurité. Ouais. Et moi, je pense, il faut se rappeler où on était au mois de mars, je pense qu'on avait également peur d'une pénurie de masques pour les milieux de la santé, les milieux qui en avaient besoin. Il y a eu une pénurie, mais imagine-toi si en plus il avait dit « tout le monde doit porter le masque en tout temps », les gens seraient garochés sur les réserves qui étaient disponibles.
Au lieu de sauter sur le papier de toilette.
Oui, peut-être que ça aurait été plus utile, mais bon, il y avait clairement un manque de préparation au niveau des stocks. Ça, c'est au Québec, mais c'est partout au pays. Les stocks n'étaient pas prêts. Le fédéral qui avait laissé ses stocks de masques disparaître au fil des ans. On les avait pas renouvelés. On les avait laissés expirer. On a détruit dans les mois, les années avant la pandémie, des millions de masques N95 sans les remplacer. Et voilà.
On a vu ce que ça a donné.
Exact.
Assouplissement des règles dans le transport scolaire, mais je pense qu'on demande quand même aux parents, si c'est possible, d'éliminer les enfants à l'école, ce serait mieux.
Oui, ça va demeurer. Ben écoute, le problème, c'est le nombre d'autobus et le nombre de places par autobus, Daniel. Ouais. On veut, les règles au départ, là, ça réduisait le nombre de places de moitié. Là, on va les réduire du tiers. Parce que dans un autobus, lorsqu'on prenait les enfants, lorsqu'on les ramassait avant la pandémie, ouais, c'était, en tout cas au primaire, c'était 3 enfants par banc. Difficile de garder un mètre de distance à 3 enfants par banc. On ouais, va faut s'entendre.
Qu'il faut qu'ils soient plus jeunes parce que les ados, c'est pas trois ados par banc.
Non, au secondaire, c'est pas 3, c'est sûr.
Même
mais
des fois,
au
c'est 1.
Oui, ben oui, exact. Mais au primaire, c'était, écoute, jusqu'à 72 élèves par autobus scolaire. Bon, mais maintenant, on n'a pas les autobus scolaires, on n'a pas les chauffeurs, et il y a un assouplissement qui sera fait, c'est-à-dire okay, qu'on pourra permettre jusqu'à 2 enfants par banc, mais on va commencer à recommander le masque, même au préscolaire et au primaire, et il semble qu'il sera obligatoire pour les élèves du secondaire, donc ceux qui voudront prendre l'autobus devront avoir ces mesures-là, mais on va enlever cette contrainte du 1 mètre. Évidemment, ouais, il y a une logique là-dedans, hein, parce que si le gouvernement d'un côté, le gouvernement fédéral, permet aux compagnies aériennes de remplir leurs avions à qui mieux, ben après ça, comment on applique cette même logique-là de transport en commun ailleurs? Ben dans le transport scolaire, là, on vient de prendre une décision. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que du côté du Centre des services scolaires des Portages de l'Outaouais, je le racontais à Michel Lapointe cette semaine, j'ai dû prendre des décisions, moi...
Ben ouais, avec tes enfants.
Avec les enfants, je t'en ai parlé toi aussi, effectivement. Ouais, ouais. J'ai dû prendre ces décisions-là le 28 juin. Et là, dans le droit ce matin, Nadine Peterson qui dit, bon, on a fait des sondages. Écoute, c'était pas un sondage que j'ai reçu, là. C'est pas un sondage qu'on a reçu. C'est une fiche d'inscription qui disait, vous devez prendre une décision avant le 28 juin. Et on en parlait. Les choses changent, les règles changent. Alors là, ouais, maintenant, on se retrouve avec des gens qui ont pris des décisions, mais les règles viennent de changer. Bon, je pense qu'il y en a qui se sont retenus de la prendre, la décision, et c'est pour ça que du côté des centres de services scolaires, là, on est en train de revoir, et que le ministère de l'Éducation est en train de revoir ces règles-là pour permettre une meilleure rentrée scolaire, parce que même si on demande fortement aux parents d'aller reconduire les enfants à l'école, c'est pas possible pour tout le monde de le faire le matin, le soir, à tous les jours, tout en retournant au travail si on continue de déconfiner au rythme qu'on fait présentement.
Mais là, comme c'est là, si tout le monde prend l'autobus, puis il n'y a pas grands-parents qui vont mener les enfants à l'école, ça va prendre plus d'autobus?
Ben c'est ça. Et est-ce qu'on en a plus d'autobus? Est-ce qu'on a plus de chauffeurs? Non. La réalité, c'est que c'est pas le cas.
On va créer de l'emploi.
On pourrait effectivement créer de l'emploi. Mais pour l'instant, ça semble pas une solution qui est envisagée. Pourquoi? Je ne le sais pas. J'imagine qu'il y a un manque de main-d'œuvre d'une part, qu'il y a un manque de matériel roulant d'autre part. Mais c'est clair que si, parce que dans la loi, là, c'est écrit, c'est permis, hein, ils ont le droit d'obtenir ce transport scolaire, et si tous les gens qui ont le droit d'obtenir ce transport scolaire s'en prévalent, ben il y aura pas la capacité suffisante pour les transporteurs scolaires d'amener tout ce monde-là à l'école. Et là, on aura un autre problème, et c'est là où on verra, est-ce que les écoles devront ajuster leurs horaires? Est-ce que les journées seront plus longues? Est-ce que les horaires seront déplacés pour qu'on puisse faire 2 vagues de transport scolaire? Du côté de la CSPO et des autres, comme celle des draveurs, c'est certain qu'on préfère le scénario où on peut garder les horaires tels quels sans avoir à réaménager ça, parce que ça devient un complexe au niveau des horaires, les professeurs, ouais, etc.
Effectivement. Bon, on n'a pas le choix de s'ajuster partout comme c'est là depuis un bout de temps. Là. Depuis les 3 derniers mois, en tout cas. Puis à venir, ça s'en vient.
Il faut faire preuve de flexibilité. Mais oui.
Écoutez, dans la région de Gatineau, Toit vert et borne, c'est pas le titre d'un livre, mais très populaire dans le secteur de Gatineau.
Ouais, ben c'est parce que la ville de Gatineau sort gagnante de ce dossier-là, Daniel. Au mois de janvier, lorsque la ville avait adopté son règlement, et on va le rappeler, le règlement concerne les toits verts pour les nouvelles habitations. C'est un règlement qui permettait, ou en fait forçait, que toute construction qui soit Toute construction d'une superficie de 2000 mètres carrés et plus devrait prévoir un minimum de 20 % de toit végétal. Les stationnements qui auraient plus de 20 espaces là auraient dû avoir des mesures environnementales également, etc., etc. Donc l'Institut de la construction, qui était fâché de la décision David de Gatineau, disait que il manquait de consultation d'autre part et qu'on avait besoin de plus de temps pour s'adapter. Donc c'était tourné du côté des tribunaux, Daniel. Mais ça s'est fait au mois de mars. Là, on est rendu au mois de juillet et l'industrie qui décide d'arrêter les procédures juridiques qu'ils avaient entamées devant la Cour supérieure. Pourquoi? Ben écoute, moi, je pense qu'une des raisons pourquoi on fait ça, c'est que, un, on pense qu'on aurait probablement perdu, mais deux, c'est qu'au mois de janvier, l'industrie de la construction disait on va avoir besoin de 6 mois pour s'adapter. Or, à cause de la pandémie, tout est arrêté. Le 6 mois, il est passé.
Alors, Gatineau, tout le monde est content?
Ben, tout le monde est content, certainement du côté de la ville. Ouais. On est très content de la situation. Et les militants environnementaux, là, qui veulent ce genre de règlement, qui favorise l'apparition de toits verts, qui favorise l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, par exemple, ben, vont applaudir le fait que finalement, on peut tourner la page et aller de l'avant et vont espérer que d'autres municipalités à travers le Québec, le Canada, adoptent ce genre de règlement pour favoriser, là, la lutte contre les changements climatiques.
Mais si on s'arrête aux bornes, effectivement, de plus en plus de personnes ont des véhicules électriques maintenant. Alors, faut pas arriver dans une ville puis il n'y en a pas beaucoup. Alors, ça fait partie de l'évolution, on n'a pas le choix.
C'est sûr que ça fait partie de l'évolution. Il faut les rendre plus disponibles, mais le parc automobile n'est pas encore ce qu'il devrait être au niveau de la voiture électrique. Mais la demande ira en croissant, c'est absolument évident. Absolument. Et on le voit, certains, hein, les places de choix dans certains établissements, des restaurants notamment, les places de choix près de la porte, souvent sont réservées aux voitures électriques. Donc c'est un peu un incitatif là à faire sa part du côté de l'environnement.
Ben, gros merci. Merci beaucoup, Carl. On se reparle demain pour la dernière de la semaine.
À demain, Daniel.
Parfait, mon ami.